Bien, donc nous reprenons nos travaux sur cette journée Blumenberg en complément de Gilson. Donc nous allons poursuivre la lecture de l'œuvre de Blumenberg, de la légitimité des temps modernes, avec l'exposé de Philippe Butgen, qu'il n'est sans doute pas nécessaire de présenter. Il est professeur de philosophie des religions à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, très connu pour ses travaux sur Luther, sur les rapports entre Luther et la philosophie et sur l'idée de confessionnalisation, mais aussi pour ses travaux sur la philosophie contemporaine de la religion. Donc il va nous apporter un éclairage sur cette place de Luther et de la réforme dans l'œuvre de Blumenberg, et je le remercie vivement.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation qui m'honore. Je voudrais aujourd'hui reprendre des réflexions que j'ai eues sur Blumenberg, il y a été fait référence tout à l'heure, étendre ces réflexions dans la perspective de nos deux journées et en évaluer la portée à la lumière d'un projet de recherche qu'on peut mener, je crois, avec Blumenberg sur les questions de l'affirmation et de la confession. Pour cela, je vais devoir commencer brutalement. Question : entre le médiévisme et Blumenberg, au fond, où est le problème ? Réponse : le problème, c'est que nous avons affaire avec Blumenberg à une grande pensée catholique, catholique mais moderne, catholique et moderne, ou pour paraphraser le cantique, catholique et moderne toujours. Je dis moderne, pas moderniste au sens du modernisme qui a un temps préoccupé Gilson, ni de je ne sais quel accommodationnisme. La modernité, on le sait, ne se réclame que d'elle-même et c'est ce qui fait sa légitimité. Le catholicisme philosophique de Blumenberg, par conséquent, est un catholicisme qui ne se réclame en rien du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est que ce catholicisme-là ? Qu'est-ce qui me pousse à un début tellement abrupt ? Ni le catholicisme, ni la modernité ne sont vraiment au centre de mes intérêts. Donc j'établis mon constat, Blumenberg catholique et moderne, par soustraction, à partir d'un autre constat plus proche de mes intérêts. Blumenberg expose la première grande théorie non protestante de la modernité. Je fais référence à des remarques qui ont été faites tout à l'heure. Il est vrai que la sécularisation est une querelle d'allemand, mais si on veut s'intéresser à cette querelle d'allemand, je crois qu'il faut suivre la loi toute germanique, elle aussi, qui est une loi de confessionnalisation de la pensée, c'est-à-dire prise par la polarité catholique. Protestants. Une première grande apologie catholique de la modernité, et non pas du modernisme, on ne s'imagine pas, mais dans les années 60, au moment où paraît la légitimité, c'est quelque chose de pratiquement inouï. Et précisément, toute la légitimité marque sa distance envers l'opinion commune qui célèbre dans la réforme protestante l'avènement de l'individu et dans Luther, l'inventeur de la conscience. Selon une grande formule des années 20. Pour Blumenberg, le seuil d'époque, il n'est pas dans la réforme, il est quelque part entre le Cusin et le Nolin. Donc la modernité n'est pas protestante. Elle n'est pas affaire de conscience, d'examen, d'intériorité, d'individu ou d'autonomie. Ce que Blumenberg appelle l'auto-affirmation humaine est la somme de tous ses refus. L'homme ne se replie pas dans sa conscience, au contraire, il s'affirme dans le monde. Tel est le catholicisme philosophique de Blumenberg, qui est tout autre chose, on l'aura compris, qu'une philosophie catholique, ceci peut-être pour marquer un lien avec la journée d'hier. Du reste, Blumenberg était sans doute trop moderne pour être totalement catholique et trop catholique pour être naïvement moderne. Mais où, sinon dans un catholicisme précisément, se rejoindrait l'élan cosmologique de sa pensée, son insistance anthropologique, ainsi que la latinité militante de son érudition. Et pourtant, ce catholicisme et cette latinité sont sans Moyen-Âge. Non, bien sûr, que Blumenberg ignore le Moyen-Âge. Qui d'autre que lui, hormis dans des cercles vraiment spécialisés, pouvait commenter Nicolas d'Autrécourt en 66 ? La question n'est donc évidemment pas d'érudition. La question, c'est celle d'un Moyen-Âge qui est délibérément décentré et minoré. On me permettra ici, à nouveau, quelques rappels sur la deuxième partie de la légitimité, absolutisme théologique et auto-affirmation humaine. Le Moyen-Âge est décentré tout simplement parce qu'il est saisi exclusivement sous l'aspect de sa crise, crise des Mittelalters. Et encore, cette crise ne prend pas sens en elle-même, cela un néo-scolastique aurait pu le dire, elle ne prend sens que dans une comparaison de crises, die Epochenkrisen von Antike und Mittelalter im Systemvergleich, les crises d'époque de l'Antiquité et du Moyen-Âge, légitimité des temps modernes, partie 2, chapitre 3, équivalence fonctionnelle de l'atomisme antique et du nominalisme médiéval. Comme dit Blumenberg, c'est une formule qu'Aurélien Robert avait citée en introduction, après la philosophie classique des Grecs, l'ataraxie pouvait rester un postulat, mais après l'absolutisme théologique du dernier Moyen-Âge, l'auto-affirmation de l'homme devenait l'implication nécessaire de tout système philosophique. La formule est encore obscure, nous devons la comprendre, mais elle signifie déjà clairement une chose. Chez Blumenberg, le Moyen-Âge a bien rendu possible l'auto-affirmation humaine, mais seulement après lui. Le Moyen-Âge, c'est l'époque qui ne s'affirme pas, parce qu'elle n'affirme que Dieu. Remontons encore de deux chapitres pour comprendre pourquoi ce Moyen-Âge décentré est aussi un Moyen-Âge minoré. Légitimité 2.1, die misslungene Abwendung der Gnosis als Vorbehalt ihrer Wiederkehr, le rejet manqué de la Gnose comme réserve de son retour. Contre Vögelin, il faut dire que seule la modernité a surmonté la Gnose, car pas plus le Moyen-Âge, Occam, que l'Antiquité tardive, Augustin, n'y sont parvenus. La Gnose est non surmontée au Moyen-Âge, seulement transposée ou traduite. C'est donc un échec, échec de l'Antiquité tardive, confirmé par la crise du Moyen-Âge. Échec, crise, nous pouvons résumer, le Moyen-Âge de Blumenberg, c'est la crise d'un échec. Il faut le dire, je crois, avec cette brutalité, pour ensuite rendre possible la critique qui, maintenant, doit commencer. Revenons au catholicisme philosophique. C'est en particulier la séquence que je viens de résumer dans la légitimité qui lui sert de berceau. Cette séquence a en effet ceci de très étrange, qu'elle est quasiment théologique et en première personne. En effet, les pages sur l'absolutisme théologique et la fin du système médiéval révèlent un Blumenberg explicite comme jamais, presque à découvert dans l'expression de son rapport avec ce qu'il appelle, sans autre précision, la théologie chrétienne. Le philosophe statue, tout simplement, sur ce qu'il appelle le potentiel de cette théologie, et il statue, tout aussi simplement, sur le Dieu biblique, un Dieu biblique qui est approché ici, sans médiation. Son jugement est sans appel, et il pourra de fait rappeler des argumentaires néo-scolastiques contre le nominalisme, à ceci près que le modèle est désormais Nicolas de Cuse et non plus jamais Thomas d'Aquin. Blumenberg dénonce, je cite, « les dérangements, déformations, tangages de la théologie du Moyen-Âge tardif ». Les termes sont parfaitement explicites et parfaitement porteurs de jugement. Dérangements, déformations, tangages, par exemple, découplage de la théologie et de l'anthropologie, de la création et de l'incarnation. Ou encore, je cite, effort effrayant pour penser l'action du Dieu aristotéliste, pardon, pour penser l'action de Dieu indépendamment de celle des hommes. Ou encore, citation, circularité grotesque du Dieu aristotélicien, cette pensée de la pensée qui ne sauve plus que sa toute-puissance en quelque sorte. Le potentiel détruit ici est celui des assurances humaines, dit Blumenberg, dans lesquelles la théologie aurait dû savoir puiser. Car ici, de son propre aveu, le philosophe distribue les jugements et les avertissements, moneta. Le Dieu perdu est celui dont on a oublié, par zèle théologique, qu'il s'est incarné propter nos homines et non propter se ipsum. L'issue de tout ce processus est nommée objectivation, durcissement par isolement de l'humain. Son récit donne lieu à l'une des explicitations les plus complètes, chez Blumenberg, de ce qu'il faut entendre par « Selbstbehauptung », auto-affirmation. C'est ici le moment du retournement, « Umschlagen », dont je reparlerai dans un instant. J'introduis donc ici les deux notions de Selbstbehauptung et de retournement, en citant Blumenberg dans un texte que vous avez sur votre exemplier, Légitimité 2-3, texte 1. Ce qui est ici appelé auto-affirmation constitue le mouvement contraire, celui d'une récupération des impulsions perdues, d'une concentration nouvelle sur l'intérêt que l'homme a pour lui-même. Intérêt de l'homme pour lui-même. La théologie de Blumenberg est une théologie humaniste, assumée, on l'a vu, presque sans précaution, par le philosophe. Or, c'est à ce moment précis que Luther entre en scène. Un Luther qu'on n'attendait plus chez Blumenberg, un Luther que Blumenberg le catholique semblait avoir précipité dans l'oubli, autant que Blumenberg le moderne avait englouti le Moyen-Âge dans son échec et dans sa crise. Texte 2. Le texte de Luther cité par Blumenberg est celui de la Disputatio contra Scholasticam Theologiam d'août septembre 1517, thèse 17. Je traduis. L'homme ne peut naturellement vouloir que Dieu soit Dieu, bien plus, ce qu'il veut, c'est être lui-même Dieu, et que Dieu ne soit pas Dieu. Selon Blumenberg, ces mots de Luther tracent un programme. Vouloir être le seul Dieu contre Dieu, c'est le programme, je cite, d'une auto-divinisation antidivine de l'homme, formule d'une auto-affirmation naturelle et rationnelle. Cette auto-affirmation émerge de l'aliénation extrême de l'homme quand la théologie de la puissance absolue de Dieu l'a privé de toutes les assurances relatives à sa position dans la création. Entre ces deux choses, c'est-à-dire cette autodivinisation et cette aliénation, le mouvement est celui que j'annonçais, celui d'un basculement instantané, Umschlag. Je cite Blumenberg, texte 3. La provocation de l'absolu transcendant se renverse, schlägt um, au point de sa radicalisation la plus aiguë en découverte de l'absolu immanent. On peut ici entreprendre une rétrospection, quelques siècles avant, vers ce que Blumenberg à plusieurs reprises appelle, et ce sont des termes qui sont pour le coup pleinement de son temps, la Hochscholastik, le XIIIe siècle. La Hochscholastik, c'est un basculement inverse de celui qu'on vient d'observer, et Blumenberg en donne pour illustration la condamnation parisienne de 1277. En 1277, dit-il, on est allé d'un intérêt primordial pour l'intelligibilité humaine de la création, à, je cite encore, une fascination spéculative pour le prédicat théologique de la puissance et de la liberté absolue. 250 ans après Tempier, chez Luther, le balancier s'inverse, le retour à l'intérêt humain s'annonce, et ce retour à l'intérêt humain résulte d'une nécessité qui, de la soumission à la foi, a reconduit vers, je cite, « ce à quoi il n'y a pas de renoncement ».« Ce à quoi il n'y a pas de renoncement », c'est le fond ultime de l'intérêt humain qui est découvert, selon Blumenberg, dans son abandon même, ce qui, à ses yeux du reste, le dispense de toute définition. Jamais vous n'aurez de définition chez Blumenberg de ce que « human » signifie. Relevons ici un premier ensemble de difficultés. La théologie de Blumenberg est humaniste, celle de Luther ne l'est évidemment pas. Si donc le programme d'autodivinisation antidivine peut être présenté comme le programme d'une auto-affirmation humaine, c'est sans revendication, ni Blumenberg ni Luther ne se réclament de cette auto-divinisation antidivine, et d'autre part c'est sous condition en l'occurrence, de péché. C'est de cela qu'il s'agit dans la thèse 17 de la Disputatio que nous avons lue. Cette thèse creuse en effet au plus profond du péché humain. Vouloir être Dieu et ne pas vouloir être Dieu, ce n'est pas le plus capital des péchés capitaux, c'est ce qui fait du péché une nature enfouie au cœur même des vertus. C'est à cette condition qu'un tel péché, qu'on pourra dire avec Blumenberg maximal, fait émerger, je cite encore, le minimum des possibilités auto-affirmatrices. Maximum, minimum, c'est un système de coordonnées permanent dans ce chapitre de Blumenberg. Cette condition de péché, on n'est pas étonné de voir qu'elle crée beaucoup de perplexité chez Blumenberg, et on peut le voir précisément par le retour qu'il fait à cet endroit, à ses remarques initiales sur Augustin, dans la partie 2. Dieu n'est plus, pour le pécheur de Luther, le point de référence suprême et nécessaire de la volonté humaine, dit Blumenberg, alors que chez Augustin, c'était précisément pour disculper Dieu que l'homme avait été chargé, je cite encore, de tout le poids des reproches qu'on peut faire au monde. Qu'est-ce qui s'est exactement passé alors entre Augustin et Luther ? C'est une chose que le texte ne dit pas. Ici, on ne peut que supputer des indices doxographiques, à commencer bien sûr par le programme ultra-augustinien de Luther dans cette disputatio. Regardez la thèse 1 de la disputatio, texte 4, que j'ai cité pour mémoire. C'est du Luther. Dire qu'Augustin a exagéré quand il s'exprimait contre les hérétiques, c'est dire qu'il a menti à peu près partout. Donc évidemment, il n'a jamais exagéré. La théologie est une hyperbole. Entre Augustin, donc, d'une part, et d'autre part, l'augustinisme de Luther, avec, je cite encore Blumenberg, son exacerbation sans pareil de tout le système du Moyen-Âge, où se place précisément l'inflexion et l'évolution ? Comment peut-on ici penser une radicalisation ? Radical, c'est de fait une des épithètes les plus fréquentes au début de la légitimité. Mais qu'est-ce que cela exactement, une radicalisation ? En théologie et en philosophie. Vaste question que Blumenberg aide à poser, sinon tout à fait à résoudre. Car la difficulté qu'il éprouve ici révèle le trouble dans lequel la rupture augustinienne laisse son idée du Dieu biblique et de la théologie chrétienne par lesquelles, on l'a vu, son catholicisme philosophique avait pris les traits d'une quasi-théologie. Disons donc, pour clore sur ce point du catholicisme de Blumenberg, un catholicisme non thomiste, mais aussi pré-augustinien. La polémique, il est vrai, a pris d'emblée une autre direction chez Blumenberg. Cette direction s'annonce dans le rapprochement entre Luther et Descartes, par quoi est introduite la citation de la Disputatio de 1517. D'emblée, l'analogie est faite dans le texte entre le non potest homo velle deum esse deum de Luther, et le cogito, comme, je cite, conquête du nouveau fondement absolu. C'est du Heidegger, évidemment. On va y revenir. Cette analogie, elle se poursuit, et elle se rompt, après les doutes exprimés sur Augustin. Nous lisons en effet, c'est le texte 5, Luther crée de l'hostilité entre ceux qui ne peuvent être certains d'une élection non méritée et non garantie et le Dieu qui n'a pas à être là pour eux. La certitude absolue sur le fond de la pensée humaine elle-même, telle que la recherche Descartes, n'est pas la sécularisation de la certitude du salut, mais son antithèse nécessaire, promue et légitimée par lui, contre toute attente. L'absolutisme théologique a son propre athéisme, son propre anthropothéisme, et ils lui sont indispensables. Je résume l'argument. Il existe bien un lien entre le cogito et la certitudo salutis, mais ce qui fait ce lien n'est pas une dérivation ou une sécularisation. C'est autre chose, c'est, dit Blumenberg, la nécessité d'une antithèse, une sorte de provocation, autre nom de l'Umschlagen, ce retournement ou ce basculement que nous avons déjà vu. La certitudo salutis, toujours déçue, se retourne donc ou bascule en cogito. Ce texte est un texte intégralement crispé qui a un seul adversaire, Heidegger. Je vais maintenant rassembler quelques témoins dans un corpus heideggerien que j'avais essayé ailleurs de saisir plus exhaustivement. Je propose qu'on aille d'abord aux deux bouts de la chronologie heideggerienne. Un texte qui a déjà été cité tout à l'heure par Olivier, le séminaire du tort, en 1968, où l'interprétation de la vérité comme certitude fait l'objet d'un rappel généalogique de la part de Heidegger, rappel qui, partant de Descartes, inclut Luther, Galilée Occam. C'est votre texte 6, le protocole du séminaire. En prélude historique à cet avènement, c'est Descartes, on peut constater que la recherche d'une certitude apparaît d'abord dans le domaine de la foi, comme recherche de la certitude du salut, Luther, puis dans celui de la physique, comme recherche de la certitude mathématique et de la nature, Galilée, recherche préparée de loin sur le terrain du langage, par la séparation nominaliste des mots et des choses, Guillaume d'Occam. À l'autre extrémité de la chronologie, en 1938, dans les notes complémentaires à la conférence sur l'époque des conceptions du monde, Heidegger rapprochait la demande cartésienne du fundamentum in concussum de l'émancipation, je cite, « l'émancipation par laquelle l'homme se libère de l'obligation normative de la vérité chrétienne révélée et du dogme de l'Église. Cette libération faisait passer, disait Heidegger, d'une certitude révélée du salut à une certitude dans laquelle l'homme s'assure du vrai comme de ce qui est su par son propre savoir. » Examinons maintenant quelques témoins intermédiaires. Les notes de 1936-46, rassemblées dans Überwindung der Metaphysik, peuvent être lues comme un complément à cette pensée de l'émancipation dont nous venons de voir un premier échantillon. L'intérêt de ce complément, c'est qu'il inclut, pour la première fois, une assimilation de la forme moderne de la certitude à la réforme et à la doctrine de la justification. C'est votre texte 7. La certitude comme acte de s'assurer de soi-même, de se vouloir soi-même, et la justitia comme justification du rapport à l'étant et à sa première cause, et par là justification de l'appartenance à l'étant. La justificatio au sens de la réforme et le concept nietzschéen de justice sont une seule et même chose. Alors cette mention d'une étrange justice luthéro-nietzschéenne construit à l'intérieur de notre réseau de textes un sous-réseau qui fait apparaître la méditation sur la réforme et la certitude du salut comme une véritable constante de la décennie 40 chez Heidegger. Dans le mot de Nietzsche, Dieu est mort, en 1943, le récit des débuts de la modernité se teinte, étonnamment, d'un protestantisme sans ambages, dans le sens de la généalogie protestante de la modernité dont je parlais au début. C'est votre texte 8. On n'est pas tout à fait sûr de lire du Heidegger, tellement c'est classiquement protestant. Au début des temps modernes, s'éveille avec une vigueur nouvelle la question « Comment, dans l'entier de l'étang, et ce qui veut dire devant le fondement le plus étant de tout étang, Dieu, l'homme peut-il devenir et être certain de sa permanence, c'est-à-dire de son salut ?» Cette question de la certitude du salut, c'est précisément celle de la justification, c'est-à-dire celle de la justice. Première doctrine de la modernité, doctrine de la justification, comme doctrine de la certitude du salut. On interrogera à la fin ce « comme ». J'appelle maintenant un ultime témoin. C'est dans deux sections du Nietzsche 2 de 1961, celle sur la souveraineté du sujet dans les temps modernes et sur la mutation de la vérité en certitude, que Blumenberg, 5 ans plus tard en 1966, a trouvé sa cible. L'évocation de Luther dans la légitimité, que nous avons vue, répond en effet directement à une hésitation de Heidegger. Et je cite au texte 9, le Nietzsche 2. Cette histoire de l'humanité moderne a été préparée de façon médiate par l'homme chrétien fixé sur la certitude du salut. C'est pourquoi l'on peut interpréter différents phénomènes des temps modernes comme une sécularisation du christianisme. Je parle d'une hésitation de Heidegger. De ce texte très connu, on a en effet surtout retenu la rétractation qui suit immédiatement chez Heidegger, rétractation à propos du discours de la sécularisation, à propos de ce que Heidegger appelle son égarement intellectuel et de son aveuglement sur le sens du monde, du séculum, dans la sécularisation. C'est un classique de la discussion sur la sécularisierung que notre texte de la légitimité a, à sa façon, consacré comme classique. Il y aurait beaucoup à dire, en vérité, sur l'objet exact de l'hésitation de Heidegger. Est-ce que c'est la métaphore de la sécularisation comme mondanisation? Est-ce que cette rétractation s'étend aussi au schème de la sécularisation comme transfert et sortie du religieux? Apparemment pas, puisque nous lisons aussi dans le Nietzsche 2 que là, je cite, que la culture moderne, même là où elle se fait incroyante, reste chrétienne. Cet énoncé de Heidegger est idéal typique et caractéristique de tout ce que Blumenberg combat. J'aimerais cependant ne pas en rester là. La suite des textes que j'ai parcourus à l'instant montre en effet que le point de Heidegger n'était pas la rémanence chrétienne dans la modernité, qui est un tout petit angle dans la Seinsgeschichte. Le point, c'était bien la certitude elle-même, comme sécurité, justice, fondement, prise en main de l'étang. Il faut donc retenir pour lui-même, je crois, ce motif de la certitude et de la confiance, qui trouve ses équivalents indéfiniment déclinés dans la légitimité, comme Gewissheit, Vertrauen, Zuverlässigkeit. C'est bien à ce propos que s'engage la polémique contre Heidegger. Et c'est ici que le diagnostic de Blumenberg sur la crise du Moyen-Âge peut être comparé ou confronté à ce que nous savons de la réforme. Résumons. Luther a offert à Blumenberg l'occasion d'une belle charge anti-heideggerienne, l'une des plus brillantes sans doute de la légitimité des temps modernes. Pourtant, la cible était presque trop belle des formules éclatantes comme « la culture moderne reste chrétienne ». Derrière l'éclat d'une formule comme celle-ci, en revanche, le motif exact de la divergence entre Blumenberg et Heidegger reste assez obscur. Trois points le montrent. Trois points d'un savoir incorporé à la fois par Heidegger et Blumenberg, les deux, le savoir des années 1900-1960 sur les théologies de la Réforme et du dernier Moyen-Âge. Le premier point, c'est celui du nominalisme, communément attribué à Luther. On a vu le séminaire du Tor rapprocher les deux noms de Luther et Occam, et on a vu la légitimité construire sa référence à Luther et à la Disputatio de 1517, au terme d'une véritable gradation de l'absolutisme nominaliste, qui inclut aussi Autrecourt. Au passage, cependant, Blumenberg oublie que la Disputatio s'en prend en fait essentiellement à Gabriel Biel. Alors que se passe-t-il ? En fait, Blumenberg et Heidegger ont gardé en mémoire quelques données biographiques sur la formation nominaliste de Luther à Erfurt. Surtout, ils sont restés sous l'emprise d'une historiographie confessionnelle, en partie néo-thomiste, pensons à Denifle, qui, chez Luther, a pris à la lettre certaines professions de foi nominalistes, « je suis de la faction occamienne », c'est en effet bien du Luther, elle les a pris à la lettre sans toutefois percevoir leur ironie et sans s'enquérir non plus du mobile de Luther, le mobile d'une antiphilosophie, plus fort chez Luther que le choix de toute voie, ancienne ou nouvelle, dans l'université médiévale. Deuxièmement, Heidegger et Blumenberg ont en commun d'avoir cru au parallèle Luther-Descartes, et lui aussi à sa tradition confessionnelle. Pensons à Maritain, 1925, trois réformateurs, Luther, Descartes, Rousseau. On peut donc ici réduire l'écart entre la formule heideggerienne d'une inauguration luthéro-cartésienne de la modernité par transfert de la certitude du salut à la certitude de l'ego, et d'autre part, chez les Blumenberg, la formule d'un rebond de la crise par approfondissement. Lisons une dernière fois la légitimité, texte 10. J'ai essayé de montrer, dit Blumenberg, ce que signifie le fait que Descartes a transformé la crise tardo-médiévale de la certitude en expérimentation de certitude et qu'il présente la nécessité de la situation historique sous l'aspect d'une liberté dans des conditions aggravées qu'il s'est imposée lui-même. Vous le voyez, la conviction d'une solidarité Luther-Descartes ne s'en trouve pas entamée, au contraire. Cette conviction, elle soutient encore en 1967 la conférence du théologien heideggerien Gerhard Ebeling sur « Doute et certitude, la situation de la foi après Luther et Descartes », qui livre le premier commentaire des pages de la légitimité des temps modernes que nous venons de discuter. Le troisième point, et le principal, c'est la certitude du salut elle-même. On a vu que la conférence de 1943 sur « Le Dieu est mort » de Nietzsche plaçait ainsi un signe de stricte égalité entre la certitude du salut et la justification du croyant par sa seule foi. C'est cette stricte égalité que je voudrais maintenant discuter. La dérivation dans la Seinsgeschichte du fundamentum in concussum à partir de la certitude du salut repose chez Heidegger sur une opération préalable, celle qui consiste à concentrer la justification par la foi seule dans la certitude du salut. Or, le procédé de Blumenberg n'est pas très différent, au fond. Si la certitude du salut peut être mise au centre du développement sur Luther, dans la légitimité aussi, c'est parce que non seulement l'exposé de l'absolutisme nominaliste, mais en vérité toute la comparaison avec l'épicurisme, est placée sous le signe des assurances, gages, fiabilité, certitude que l'homme peut obtenir quant à sa place dans l'univers. Or, il y a ici un évident artifice de présentation, dont un premier indice se trouve déjà dans le fait que la Disputatio contra Scholasticam Theologiam de 1517, texte de référence de la légitimité, ne traite en rien de la certitude du salut. Le doute peut commencer à s'étendre. Bien évidemment, il y a chez Luther un locus de justificatione, et on a bien raison de ne retenir que cela chez lui. J'ai essayé ailleurs de le montrer, la justification pour lui c'est toute la théologie. Il y a bien une somme de théologie chez Luther, simplement c'est une somme en un seul article, l'article de la justification. Mais justement, au regard de cela, sommes-nous sûrs que la notion d'une certitude du salut joue un rôle si considérable ? En vérité, les forages statistiques qu'on peut faire dans l'œuvre de Luther ne permettent pas de l'établir. Pourtant, c'est bien dans cette doctrine de la certitude du salut que Heidegger et Blumenberg ont comprimé la doctrine luthérienne de la justification, et avec elle, une bonne partie de ce qu'on appelait alors la théologie nominaliste. Cette compression, elle est le résultat d'une longue histoire. L'aspect le plus remarquable de cette histoire consiste dans l'entrecroisement de la luthérologie du 1er XXe siècle avec les décrets du Concile de Trente. C'est ce que je voudrais montrer pour finir. En 1910, le théologien berlinois Karl Holl, mort en 1926, publiait une longue étude sur, je cite, enfin c'est son titre, « La doctrine de la justification dans le commentaire de Luther à l'Épître aux Romains, vue à travers la question de la certitude du salut ». C'est un titre à l'allemande de l'époque. L'auteur livrait ici le premier commentaire doctrinal de la très importante découverte textuelle qui venait d'être faite, celle du manuscrit du cours de Luther sur l'Épître aux Romains, 1515-1516, le plus riche, incontestablement, de la période qui précède l'affaire des indulgences. À l'heure des fascinations pour le premier Luther, l'exposé de la vieille doctrine de la justification retrouvait une forme de jeunesse en se centrant sur ce que Holl appelait la question de la certitude du salut, et dont je suis presque sûr que c'est lui, Holl, qui en a fait une question. Ce choix de Holl devait fixer des habitudes d'interprétation, celles précisément que l'on vient de rencontrer chez Heidegger et Blumenberg. Maintenant, relevons la plus grande ironie. Holl, en cherchant chez Luther une doctrine d'emblée cohérente de la Heilsgewissheit, n'a peut-être, en vérité, fait qu'antidater une condamnation lancée par le Concile de Trente lors de sa sixième session, le 13 janvier 1547. Dernier texte, numéro 11. Je traduis. Bien qu'il soit indispensable de croire que les péchés ne sont et n'ont jamais été remis que gratuitement par miséricorde divine à cause du Christ, cependant personne n'a le droit de dire que ces péchés sont ou ont été remis, en se targuant de la confiance et de la certitude que ces péchés sont remis, et en cherchant le repos dans cette confiance et cette certitude seule. Cette confiance vaine et éloignée de toute piété peut exister chez des hérétiques et des schismatiques, bien plus, de notre temps, elle existe et est prêchée à grand bruit contre l'Église catholique. Beaucoup à dire sur ce texte qui remet très largement en cause le portrait de Luther comme le grand angoissé du salut. Vous voyez bien que les pères tridentins disent précisément le contraire. Il n'est pas du tout angoissé et c'est même son problème, il est trop sûr de son salut. C'est l'inanis hereticorum fiducia. Et je fais ici une hypothèse. En insistant ainsi sur la vaine confiance des hérétiques et en mettant sur elle un poids qui n'était sans doute pas dans les premiers textes de la Réforme, la redéfinition tridentine de la justification a peut-être inventé la certitude du salut, du moins comme doctrine, comme locus ou comme question, comme disait Hoyle. C'est ce que prouveraient, à contrario, les réactions de la dogmatique luthérienne naissante, par exemple chez Martin Chemnitz, après le Concile, par exemple à partir des années 1560. Il est vrai que la certitude du salut est devenue une ligne de démarcation confessionnelle, et désormais elle est de fait professée comme un article par les luthériens. Toute cette ligne semble avoir été tirée quatre siècles durant, jusque dans les années 60, et c'est ce que prouve, à mon sens, le combat obscur que mène la légitimité des temps modernes contre Heidegger. Quelques mots pour conclure. Au-delà de l'arbitrage entre Heidegger et Blumenberg, je crois que la certitude du salut livre une piste d'enquête toujours intéressante. Pour le dire dans les termes d'Alain, nous avons en effet, avec la Heilsgewissheit, la Certitudo Salutis, un des plus ennuyeux des séculaires, le plus persistant à la couture du Moyen-Âge tardif et de la première modernité, et qui plus est surdéterminé par ses réceptions contemporaines, à la fois chez Heidegger, Blumenberg et dans l'historiographie des théologies protestantes et nominalistes au XXe siècle. Les indications que j'ai fournies à ce sujet sont bien sûr fragmentaires. Je vais essayer très brièvement de tracer le programme. Il n'y a sans doute pas, je le suggérais, de théologie élaborée de la certitudo salutis chez Luther et à Wittenberg dans les années 1500. Il reste cependant à comprendre le sens de l'anathème que lançaient les pères tridentins contre ceux qui disent, je reprends la formule du décret, que leurs péchés sont ou ont été remis, en se targuant de la confiance et de la certitude que leurs péchés sont remis et en cherchant le repos dans cette confiance et cette certitude seule. Rien ne dit qu'il s'agisse ici d'un contresens ou d'une illusion des tridentins. Pour la période qui précède le Concile, il faut plutôt se saisir d'autres sources, non doctrinal. Il y a sans doute eu un moment où des hommes et des femmes se sont sentis tellement pécheurs qu'ils sont sortis dans la rue pour dire qu'ils étaient certains de leur salut. C'est là, à mon sens, la conjoncture de la première réforme, autour de 1520, la folie propre à ce moment, très différente, on le voit, de ce que montrent les discussions ultérieures sur la prédestination, auxquelles on a généralement tendance à réduire la dogmatique protestante. Cette certitude du salut, assez peu traçable dans les textes, c'est l'autre basculement, le basculement qui succède au basculement qu'avait vu Blumenberg. Le même pécheur, en effet, qui s'affirme comme Dieu contre Dieu, est celui qui, en s'affirmant, se verra tellement pécheur qu'il s'affirmera ensuite sauvé. À la suite de Blumenberg, je crois qu'il faudra encore réfléchir à ce double enchaînement. Je soulève un tout dernier point. Le décret de 30 stipule que nous devons, le texte est clair là-dessus, penser que nos péchés ne sont remis que par la miséricorde du Christ, mais que nous n'avons pas le droit de dire qu'ils l'ont été. Cette distinction entre un penser licite et un dire illicite en matière de certitude me fascine. Elle fait, je crois, le fond du texte, celui de 30, dont Blumenberg comme Heidegger se font les commentateurs inconscients, dans leur appréciation du Moyen-Âge tardif et de la Réforme, comme âge du doute et de la certitude. Comme tel, cette distinction invite à questionner encore la Selbstbehauptung dans la légitimité des temps modernes. Admettons que Blumenberg ait vu juste. L'auto-affirmation moderne n'est pas venue d'un excès coupable de certitude, mais d'une perte. Constatons cependant que la légitimité des temps modernes n'a pas cherché à savoir ce qu'était en 1517 cette affirmation sortie de l'incertitude. Ni en 1517, ni aujourd'hui peut-être, et la tâche me semble être aujourd'hui de penser moins le Selbst, le soi, que la Behauptung dans la Selbstbehauptung. La tâche est d'observer cette affirmation dont tout le problème, au seuil de nos deux époques, semble avoir été de savoir si on pouvait ou non la dire. La tâche, c'est d'observer cette affirmation comme elle s'est dite alors, c'est-à-dire proférée, proclamée, professée. Le terrain privilégié pour cette observation, C'est alors la confession de foi, ou plutôt les confessions de foi, qui ont proliféré au moment même où le christianisme médiéval se divisait irrémédiablement. Confession d'Augsbourg, 1530, Professio Fidei Tridentina, 1563, 39 Articles of Religion de l'Église d'Angleterre, 1563 aussi. Si le catholicisme philosophique de Blumenberg n'a jamais eu besoin de se confesser comme tel, c'est peut-être parce qu'au fond, il ne parlait que de cela, l'affirmation comme confession, mais qu'il ne le savait pas vraiment. Par là, avec Blumenberg ou malgré lui, nous comprenons pourquoi la confession, malgré toutes les apparences, est l'une des questions les plus modernes dont nous ayons à traiter. Je vous remercie.